Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission OVNI. Nous sommes au centre de vacances CCAS du Brusque pour un séminaire DACM. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un séminaire DACM ? Eh bien, c'est un regroupement de formateurs socio-éducatifs et de directeurs d'accueil collectif de mineurs qui se retrouvent pour un week-end pour faire des échanges de pratiques autour, par exemple, d'un pédagogue en particulier. Ce week-end est organisé par l'IFOREP, l'Institut de formation, de recherche et de promotion. Ce séminaire, organisé en cet automne 2021, regroupe donc une petite équipe autour d'une expérience radiophonico-pédagogique teintée de l'expérience du pédagogue polonais Janusz Korczak. Donc, merci à toutes et à tous de votre présence. Et avant d'entrer dans le vif de cette exploration radiophonique qui illustrera le fruit des réflexions menées au cours de différents ateliers, peut-être, Quentin, toi qui es l'organisateur de ces ateliers d'hiver, peux-tu nous raconter, nous en dire un peu plus sur Janusz Korczak ?
Voilà, une petite présentation de Janusz Korczak. Donc, au-delà des dates et de la chronologie et de l'histoire qui a été la sienne, ce qui me semblait intéressant, c'était de vous parler d'une présentation qui est dans le livre Les moments pédagogiques de Janusz Korczak et qui dit qu'ils parlent la langue des enfants. Ils traduisent leur langage à ceux qui sont chargés de leur éducation. Comment éviter que disparaisse la langue intéressante et parfaitement méconnue de l'enfant qui raconte ? Les enfants ont leur propre technique de discussion. Ils appréhendent les mots avec tout leur sens et les utilisent aussi autrement que les adultes, sans en connaître les conventions. C'est aussi parce qu'ils parlent et comprennent leur langue que Janusz Korczak est en mesure d'expliquer le sens de certaines expressions enfantines, de saisir la dimension interculturelle des rapports entre enfants et adultes. C'est parce qu'ils utilisent les mêmes mots que nous, tout en y mettant un contenu complètement différent, qu'il nous est aussi difficile de communiquer avec les enfants. Ce talent à la fois de traducteur, de créateur de liens, de bâtisseur de passerelles, Janusz Korczak le doit sans doute en grande partie à sa sensibilité pour la transversalité culturelle. Il évolue en effet, depuis sa naissance, entre et dans plusieurs mondes. Parce qu'il connaît chacun d'eux, Janusz Korczak est en mesure de se poser en observateur, d'adopter une sorte de métaposition. En lui se rencontrent plusieurs milieux. Il incarne lui-même plusieurs transversalités, entre le monde des enfants et le monde des adultes, entre les milieux pauvres et les milieux aisés de la société polonaise de l'époque, entre la culture juive et la culture catholique polonaise, entre le monde de la médecine et la pédagogie, entre le journalisme et la littérature. Voilà, ça donne un petit peu une idée de tous les champs sur lesquels Janusz Korczak a œuvré et s'est engagé, et ça donne un petit peu peut-être le vertige face à une œuvre qui est aussi transversale et plurielle. Mais je pense que ça donne le ton peut-être plus que les périodes de sa vie ou ce par quoi il est passé.
Non, ничего. Не бойтесь. Есть страшный альпин. Тогда? Ну, почекайте. Ну, не бойтесь. Но не бойтесь. Почекайте, почекайте.
Пани доктор же, пани чародея.
Alors, on vient d'entendre un extrait de Korczak, le film d'Andrzej Wajda, dont on reparlera un petit peu plus tard. Mais d'abord, on va écouter une lecture proposée par Jean-Pierre.
De la pédagogie avec humour, de l'extrême mésie du tien, jeune homme. Sois vigilant, jeune citoyen. Il y a des trappes, des pièges, des traquenards. Ça ne fait que commencer. Tu crois qu'il suffit de faire des cabrioles, de lancer des vivas à la parade, tralala bim bam, sur le champ et hop, c'est dans la poche. Je te le répète. L'un fera ce qu'on lui donnera ou ce qu'il arrachera aux autres. Et si peu, il sera mécontent, l'autre au contraire aura pour devise « J'apporterai ma contribution, non pas pour moi, mais pour les autres. » Nous avons ramassé les bris de verre, les papiers et les mégots de cigarettes. Nous avons construit une passerelle. C'est pratique pour la baignade. Désormais, c'est propre. On ne se blessera pas les pieds, on ne s'enlisera pas dans la boue. Nous avons arrosé les fleurs. Nous avons fait un acte citoyen. C'est un bon point. Certes, nous l'avons fait sur une petite passerelle, mais chacun selon ses moyens. Non, non, vous n'avez pas dérangé. Au contraire, vous m'avez aidé. Et oui, je me suis souvenu, mais-y du tien, jeune homme. J'ai passé un beau moment avec vous, un moment peu, beaucoup de joyeux. Je vous en remercie. Relève tes manches. Ne la ramène pas. Mais-y du tien, c'est difficile, pénible. Tant mieux si tu redoubles d'efforts. Rappelle-toi, ramène ta fraise. C'est affreux, affreux.
Voilà. Qui va les manger ? aller demain.
Avec ma copine Coco la fermière. Et avec un bonhomme.
Elle monte le bonhomme là déjà.
Le chat noir.
Non. Le truc rose là.
Ici.
Elle monte le chat noir.
On vient d'entendre une petite ambiance de colonie de vacances, puisque c'est en fait ce qui nous réunit ici, à savoir se questionner sur la possibilité de transposer les méthodologies et les outils expérimentés par Korczak dans les orphelinats qu'il a fondés à Varsovie avant la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte éducatif, aujourd'hui. On abordera pour cela différentes expériences au cours de cette émission. Et pour commencer à creuser cette question de la transmission de la pédagogie de Korczak, on s'est entretenu avec Elsa Saladin, de la compagnie de théâtre Étoiles et compagnie. Après un court extrait de l'émission sur les docs de France Culture qui fut consacrée à Korczak, dans lequel on entend Elsa en situation dans une classe, elle nous expliquera comment elle diffuse les idées de Korczak sur les droits de l'enfant à travers différents ateliers de théâtre ou d'écriture.
Bonjour à tous. Vous allez bien? Alors, moi je m'appelle Elsa. En quelle classe vous êtes?
CM2A.
CM2A, très important le A. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes venu dans cette salle? Alors, j'entends pour faire un atelier, pour voir une pièce de théâtre et quoi d'autre? Pour raconter une histoire? Faire une histoire. Est-ce qu'on vous a parlé de Janusz Korczak?
Non.
Alors, Janusz Korczak, c'est un nom bizarre déjà. Vous arriveriez à le dire, Janusz Korczak?
Janusz Korczak.
L'association de quartier dans le 14e nous a commandé un spectacle débat, donc ce qu'on appelle du théâtre forum, autour des droits des enfants. Je me suis donc penchée là-dessus, j'y connaissais rien, et c'est là que Korczak est revenu sans arrêt. Et j'ai été totalement happée par son travail, sa vie, ses écrits, et il m'a plus lâchée, quoi, en gros. Ou je ne l'ai plus lâchée. Avec ma compagnie de théâtre qui s'appelle Étoiles et compagnie, on s'est dit qu'on allait tout ce qui était en faveur des enfants et des adolescents, on allait l'orienter autour du travail de Korczak. On avait fait des lectures sur les conversations du vieux docteur, qui sont donc des conversations qu'il avait à la radio. Et en parallèle de ça, on a mené des ateliers avec des élèves de classe de primaire, avec Colette Charlet, autour des thématiques korczakiennes de base qui sont le tribunal des enfants et tout l'engagement que des enfants dans le processus de Korczak. Voilà. Et suite à ça, très vite, on a monté un spectacle qui s'appelle Le journal de Blumka, qui est donc un spectacle pour les enfants qui est adapté d'un livre polonais. Et ce spectacle relate la vie de Dom Sherot, l'orphelinat juif de Korczak. Et donc, ça relate la vie de l'orphelinat à travers le regard d'une petite fille, Blumka, qui raconte son quotidien, ses interactions avec les autres enfants, évidemment avec Korczak et Stefa. Et je pose pas mal de questions aux enfants à l'intérieur de ça, et ensuite on fait un échange avec eux sur les droits des enfants. Ce qui permet de toucher des enfants qui ne seraient jamais allés au théâtre. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Et en novembre 2017, nous sommes partis, ma metteur en scène et moi, à Mayotte, à Mamoudzou, pour travailler pendant 10 jours avec des enfants des rues. Autour de Korczak, autour du spectacle, faire des ateliers d'initiation, de découverte au théâtre, etc. Donc en gros, le travail que je fais, moi, avec Korczak, c'est surtout de faire découvrir aux enfants qui il est et quelle place il a, en fait, dans les droits des enfants. Et ça passe par le théâtre. Notre but, c'est d'aller plutôt vers des enfants qui n'auraient pas accès à la culture, au théâtre et tout ça, et ni accès à leurs droits. La base de notre travail, c'est ça. C'est aussi d'adapter la pédagogie de Korczak dans le théâtre. Et donc c'est là que le théâtre forum, qui est un outil que j'utilise depuis des années, rejoint beaucoup beaucoup le travail de Korczak, puisque c'est une forme de théâtre qui est souvent associée à du théâtre social et qui demande beaucoup la participation du public.
Moi j'aurais une question sur justement le projet que vous avez mené à Mayotte. En quoi c'était important pour vous de mener ce projet, parce que vous disiez que c'était avec du coup des enfants des rues, et donc est-ce que c'était en résonance justement au contexte dans lequel Janusz Korczak avait évolué aussi de son côté?
Complètement, en fait, c'était une résonance actuelle par rapport à tout le travail que Korczak a fait. La résonance actuelle étant que les enfants des rues à Mayotte étaient des enfants qui n'avaient pas accès à la scolarité, qui est un des droits fondamentaux, l'accès à l'éducation. Donc il y avait une résonance directe par rapport à tout ce que Korczak a pu essayer de mettre en place dans les droits des enfants, à l'apprentissage, le droit de se réunir, le droit de réfléchir ensemble. Ce qu'on a appelé les droits actifs et dont Korczak est vraiment le père spirituel, on va dire, au-delà de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Quels ont été leurs ressentis ?
Alors, les enfants de Mayotte, c'était encore plus déconnectés, parce qu'il y en avait qui parlaient même pas français. On avait des enfants âgés de 4 à 16 ans, donc on retrouvait exactement l'âge des enfants de l'orphelinat. Donc là, Janusz Korczak, c'est un nom qu'ils ont entendu. Peu importe qu'ils le gardent en mémoire, ça a peu d'importance. Je pense que le message qui était important, c'était qu'ils avaient des droits. Et eux, ils rêvaient tous d'une chose, c'était d'aller à l'école. Parce que c'est vrai que en France, on n'a pas trop l'habitude de ça. Et pourtant, Mayotte est un territoire français. Hein.
Oui.
C'est un drôme français. Donc c'était très très puissant dans la rencontre à cause de ça. Parce que ce droit à l'école, ils ne l'ont pas eux. Et ça, je sais qu'il y a plein d'autres pays où ça existe, mais voilà, en France, on a ce cas-là. Mayotte, il y a plein d'enfants qui n'ont pas accès à la scolarité, donc pas accès à des études, pas accès à un moyen de sortir de leur dénuement, parce qu'ils vivent vraiment dans des conditions terribles.
Quelle a été la différence que vous avez pu remarquer quand vous disiez, justement, à Mayotte, les enfants ne rêvent que d'aller à l'école? Comment ont reçu les enfants, notamment des écoles publiques ou juives, qui, eux, ont l'accès à cette école? Comment, eux, ils ont perçu ça?
Et en fait, les réactions sont toujours extrêmement différentes d'une école à l'autre, puisque nous, on pose un peu des questions sur les enfants, savoir ce qu'ils connaissent de Korczak au départ ou pas, ce qu'ils connaissent de leurs droits, on leur rappelle le rôle qu'il a eu dedans, et les questions peuvent être très, très variables, ou même les remarques qu'ils peuvent avoir peuvent être très variables d'une école à l'autre. J'ai un souvenir assez puissant, juste après les attentats, justement. On est intervenu 2 jours de suite, on a fait 4 présentations dans une école à Pantin où ils faisaient un gros gros travail sur la démocratie, la laïcité, etc. Et les enfants étaient très choqués par les attentats, comme nous tous d'ailleurs. Et il y a eu beaucoup de questions plutôt portées ce coup-là sur la tolérance, l'égalité, les droits entre les filles et les garçons. Donc en fait, ça dépend du moment où on intervient et des préoccupations des enfants. Mais les thématiques peuvent être vraiment très très larges en fonction de ce qu'ils transportent et de ce qu'ils, eux-mêmes, dans leur histoire, sur leurs origines. Il y a parfois un enfant qui est d'origine polonaise ou un enfant dont les grands-parents ont été déportés. Donc les enfants en fait font le lien par rapport à leur propre histoire et sur l'aspect apprentissage et droit à l'apprentissage. Je crois qu'ils en ont assez conscience dans les écoles, les enfants, même s'il y en a qui ont du mal à apprendre et à se concentrer. Je crois qu'ils ont conscience du fait que c'est un droit, de la même manière que c'est un droit de pouvoir jouer.
Est-ce que il y a d'autres associations ou d'autres entités qui continuent de travailler en sa mémoire?
Bien sûr. Alors, il y a un endroit important qu'ils ont créé à Issy-les-Moulineaux, un espace Korczak, qui est une salle de théâtre, dans laquelle, dès qu'ils peuvent, ils font des expositions sur Korczak, des journées de la mémoire, ils font un super boulot. Après, il y a évidemment d'autres associations Korczak dans le monde, il y en a plein. Nous, on est l'association Korczak française, mais je crois qu'il y a 80 associations dans le monde. D'ailleurs, il y a la grande association ICA, International Korczak Association, qui réunit toutes ces associations, qui sont un peu des petits ovnis. Hein. Il y a évidemment une association Korczak en Israël, une autre en Pologne, mais il y en a vraiment partout. Mais ils font un vrai, vrai boulot de mémoire, qui a souvent été enclenché par des orphelins de Korczak, qui soit ont réussi à... ne sont pas morts dans les camps en tant que juifs, il y en a eu très peu, soit étaient des orphelins catholiques et ne sont pas morts pendant la guerre et ont voulu pérenniser tout le message de Korczak. Il y a aussi le travail des éditions Faber en France. En tout cas, ce sont eux qui éditent les traductions de la plupart de tous les manuscrits de Korczak qui ont été édités en Pologne.
Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une partie de l'œuvre de Korczak qui n'a donc pas encore été traduite en
proportion. Oh, il y en a beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup.
Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y a à peu près un tiers qui a été traduit en français, je dirais. Et c'est déjà nombreux, je crois qu'il y a une 20aine de bouquins.
Vous nous avez parlé que vous l'avez rencontré, alors j'imagine que physiquement, pas.
C'est compliqué.
Mais comment vous l'avez rencontré, justement? Est-ce que c'est des anciens pupilles qui l'ont côtoyé, que vous avez pu rencontrer et qui vous ont...
Alors,
convaincu
j'ai eu accès.
De ça.
Non, c'est juste vraiment par internet, en faisant des recherches, en tombant sur ces textes, que j'ai été touchée au cœur, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est assez étonnant parce que quand les gens découvrent Korczak, c'est souvent cette radicalité-là. C'est-à-dire, soit ils accrochent totalement et c'est quelqu'un qui reste vraiment présent dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur démarche pédagogique. Soit c'est quelqu'un qui ne les touche pas. C'est vraiment de l'ordre du cœur. C'est pour ça que je vous dis. J'ai rencontré Korczak. Évidemment, il était mort depuis longtemps, mais c'était une vraie rencontre avec sa parole. Je trouve que sa parole, et puis ses actions évidemment, mais sa parole parle à notre enfant intérieur en fait. Et tous les gens que j'ai pu rencontrer après ou avec lesquels j'ai pu travailler qui ont découvert Korczak avant moi ou après moi ont eu le même sentiment, qu'il a parlé à leur enfant intérieur. C'est étonnant quand même, hein. Parce que je pense qu'il avait cette capacité-là, vraiment d'arriver à parler à chaque enfant, à son individualité, son voilà, à chaque enfant qu'il côtoyait, il arrivait à créer un vrai lien. Moi, ça me fait sourire parce que je sais que parfois avec les adultes, c'était beaucoup plus compliqué son rapport. Je pense qu'il faisait moins confiance aux adultes qu'aux enfants.
Est-ce qu'il vous arrive aussi d'intervenir auprès d'un public d'adultes ?
C'est amusant que vous me parliez de ça par rapport au théâtre, parce que justement, au bout de 10 ans de travail avec les enfants et pour les enfants autour de Korczak, on s'est dit qu'il était temps de passer aux adultes. C'était bien que les enfants connaissent Korczak, c'est notre avenir et c'est eux qui doivent pérenniser ça et être porteurs. Mais là, on s'est dit qu'il fallait écrire une pièce de théâtre sur la vie de Korczak pour les adultes. Parce qu'en fait, très peu d'adultes connaissent sa vie. Et sorti des psys, des éducateurs et de quelques profs, on connaît plus Montessori. Alors, je veux pas du tout démonter Montessori, parce que c'est vraiment la même époque, la même génération, mais Montessori, elle a bossé avec... elle a pas été très nette par rapport au gouvernement de Mussolini, quoi.
Selon vous, qu'est-ce qui fait que son œuvre est moins connue que celle de Montessori ?
Alors, c'est une vraie grande question. Alors, je pense qu'il y a des vraies raisons diplomatiques et politiques très simples. Israël et la Pologne se sont tirés dans les pattes pour faire de Korczak leur héros. Quand on arrive à Treblinka, le mémorial, c'est une grande photo de Korczak et qui dit c'est le héros de Treblinka. Enfin, on n'est pas un héros parce qu'on meurt dans les camps. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Korczak est plus connu par le fait qu'il a été déporté et tué avec 200 enfants que par son œuvre. Et pour moi, la déportation, ça n'est que la suite évidente de tout ce qu'il a mené dans sa vie. Ça, c'est une chose. Ça n'enlève pas sa fin, hein, mais c'est une évidence. Donc, il est très connu pour ça en Pologne. Il est très connu aussi pour le roi Mathias Ier, qui est son roman phare, qui est l'équivalent du Petit Prince. Donc, il est quand même connu des Polonais. Hein. C'est une réalité. Il y a eu une année Korczak en 2012 en Pologne. Et en Israël, c'est le héros juif qui a été déporté. D'accord ? Mais en Pologne, il faut savoir que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le communisme. Et pour les communistes, Korczak était un petit bourgeois. Donc, il a été blacklisté.
D'accord.
Donc, Korczak n'est vraiment réapparu en Pologne que dans les années 90, à peu près. C'est pour ça que je pense qu'il a été très peu connu en France, parce que peu de textes étaient traduits et sortaient de Pologne. Son journal du ghetto, il a été découvert très récemment parce qu'il avait été caché. Donc pareil, il est sorti beaucoup plus tard. Et c'est pour ça qu'il est connu de manière par une transmission intergénérationnelle, des gens qui ont été éducateurs à l'époque de Korczak, qui ont des enfants et qui en ont parlé. Colette Charlet, par exemple, est une des dernières à connaître. Il y avait aussi Itzhak Belfer, il est décédé là en février, c'était le dernier orphelin de Korczak.
Ah bah justement,
il est mort à 97 ans.
Et parmi ce qu'on pourrait définir d'éducateur, enfin pédagogie nouvelle, éducation nouvelle, pour vous, qu'est-ce qui le sortant du lot par rapport aux autres pédagogues et ce qui nous en reste ?
Pour moi, il n'y en a pas. En fait, c'est assez étonnant, ça c'est des choses que j'explique pas. C'est comme si par période, il y avait des choses fondamentales qui jaillissaient de je sais pas où. On pourrait parler d'inconscient collectif si on parle de Jung. Des idées comme ça fondamentales qui émergent. Là, c'était en Europe. Et quasiment en même temps, on a les plus grands pédagogues de la pédagogie nouvelle qui font un travail extraordinaire de terrain partout. En fait, ils ont tous apporté leur pierre sur différents points. Donc tous ces gens-là, c'est comme s'ils avaient suivi une intuition qui était que c'était le moment d'agir et qu'ils pouvaient le faire. Alors ils se sont battus comme des lions tous, mais ils ont vraiment fait émerger quelque chose qui était fondamental, parce que jusqu'à ce que ces gens-là arrivent, en fait, l'enfant n'était pas un être humain. C'est grâce à eux que tout à coup la notion d'être humain a pris du sens pour les enfants. Donc pour moi, on peut pas en mettre un plus en avant que l'autre. Ce qui est intéressant dans leur démarche à tous, c'est qu'il y avait quelque chose de très empirique aussi, et qui travaillait concrètement avec les enfants. C'est pas des gens qui conceptualisaient des méthodes de je sais pas quoi. Ils travaillaient sur le terrain. Donc ils sont forcément dans le vrai pour moi. Parce qu'ils ont vraiment expérimenté avec les enfants pour essayer de faire au mieux au fur et à mesure. La différence fondamentale de Korczak avec tous les autres, mais ils ont chacun leur spécificité, hein, c'est que Korczak, il a vraiment bossé sur l'aspect légal aussi. C'est ça qui fait vraiment sa différence. C'est-à-dire que Korczak, il a mis des règles il avait des règles dans son tribunal. Des règles qu'il avait créées avec son code, qu'il avait créé pendant la Première Guerre mondiale, qu'il avait écrit, qu'il a peaufiné après avec les enfants, en les côtoyant. Et c'est ce tribunal-là, donc ces règles de vie et de justice, qui ont été vraiment différentes, je dirais, par rapport aux autres pédagogues. Et c'est d'ailleurs c'est lui qui avait demandé à ce qu'il y ait des lois pour protéger les enfants. Donc il est dans cette continuité-là de justice. Il ne faut pas oublier que son père était avocat. Voilà, et c'est grâce à lui que la convention a vu le jour.
Pourquoi c'est important encore aujourd'hui de défendre toutes les valeurs et tout le système de pédagogie qu'il a mis en place?
Parce que pour moi, c'est vraiment toujours hyper d'actualité. Pour moi, travailler avec des enfants aujourd'hui autour de la parole de Korczak, c'est leur donner déjà un espace de parole et de liberté de parole qu'ils n'ont pas toujours. Qu'ils n'ont pas toujours à l'école, parce que c'est pas l'endroit, ils sont là pour apprendre et dans un cadre avec plein d'enfants. Et donc, ça peut leur permettre de se libérer certaines choses. Et parfois, il y a des paroles hyper fortes, hein. On a eu des paroles incroyables. Quand je dis, mais la loi, c'est quoi pour vous? Souvent, je commence par ça en disant, mais voilà. Korczak, il parle des droits des enfants et de la loi. C'est quoi pour vous la loi? C'est quoi les règles? Et on arrive très souvent, je leur donne l'exemple de la maison. En disant, à la maison, comment ça se passe? Dites-moi, qui, par exemple, a le droit de regarder la télé et combien de temps par jour ou par semaine? Donc, ça va varier d'une famille à l'autre. C'est les règles de vie de chaque maison. On est d'accord. Mmh. Et à l'intérieur de ça, les enfants vont dire, ben, moi, c'est ça. Moi, c'est, j'ai le droit de regarder la télé si je débarrasse la table ou si je fais tel truc. Et j'ai eu une réponse, notamment, qui m'a marquée il n'y a pas longtemps. Il y a un gamin qui nous a dit, mais, mes parents, ils me font du chantage. Si je fais ça, j'ai droit à ça. C'est du chantage. Moi, je suis pas d'accord. Donc, une vraie rébellion d'un gamin de 9 ans. Et là, il y a une autre gamine qui a fait, mais c'est pas du chantage. Tu vis chez eux, c'est eux qui mettent les règles, quoi. Ils ont le droit. Et donc, ça crée des discussions entre eux très intéressantes sur les règles de vie en communauté.
On donne aux enfants, peut-être pour certains, c'est la première fois qu'on leur offre le temps et la possibilité d'avoir un avis, d'être observateur sur une situation où la plupart du temps, l'adulte est l'arbitre.
Exactement. Et ça, c'est vraiment ce que Korczak propose. C'est le droit à l'expression, à la parole, au fait de ne pas être d'accord non plus, mais de laisser l'autre s'exprimer. Et de pouvoir faire des choix aussi. C'est important pour eux d'être acteurs, en fait.
On est convaincu que cette œuvre-là, la manière dont vous l'amenez, ça constitue véritablement un outil de critique de la société, peut-être pas, mais en tout cas une critique de la situation dans laquelle se trouve l'enfant, et ça lui donne aussi des clés pour pouvoir apposer son avis et dire, est-ce que moi je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord, et en fait, pourquoi, comment on peut réfléchir ensemble à trouver d'autres solutions. C'est vraiment très
intéressant. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la co-construction.
En tout cas, merci Elsa, et merci du coup à l'association Étoile et Compagnie, à qui on souhaite encore une belle poursuite.
Najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie sądu.
Oh, jeudi prochain, séance du tribunal. Quel tribunal?
Notre tribunal. On a aussi un conseil. On élit les juges tous les 3 mois, et si on leur fait confiance, s'ils jugent bien, on les réélit. Moi, j'ai été réélu 3 fois de suite. J'ai même jugé le docteur, parce qu'il avait grondé une fille. Il est tombé sous le coup du paragraphe 100, et il a dû s'excuser.
Dis, en fait, c'est qui ce docteur?
Tu ne le sais pas?
Comment je pourrais savoir?
Tout le monde le connaît. C'est le plus grand polonais du monde.
Mais c'est un juif.
Et c'est aussi le plus grand juif.
Janusz Korczak a donc fait des tentatives pédagogiques diverses et mis en place différents outils concrets au sein de ses orphelinats. Ainsi, par exemple, il s'est questionné et a travaillé sur l'épineuse question des bagarres. On écoute une lecture, puis des extraits de réflexions croisées entre les participants du séminaire sur cette question de la bagarre.
Tiré du livre de la pédagogie avec humour, un extrait du texte « Les bagarres ». Je sais, tu es impétueux. Moi? Oh non, je te fais pas la morale. Je n'aime pas me mêler des affaires des autres. Ce sont des questions personnelles et compliquées. Je sais bien, un désaccord, une petite tension, de la dynamique, une explosion, et c'est la bagarre. Tes camarades et toi, vous connaissez mieux vos problèmes que moi. Bien souvent, il est difficile de les éviter, en effet. Mais pour en venir à se colter 3 fois par jour, tu te rends compte? 3 éclairs, 3 bâtons de dynamite. Se tabasser 3 fois par jour, c'est trop. Vous abusez.
Merci pour cet extrait, Nicolas. Donc en fait, c'est un extrait d'un chapitre qui s'appelle Les bagarres et qui présente un petit peu comment Janusz Korczak, à partir d'un constat, a proposé des différentes solutions. Donc il avait ces cinq dispositifs ou cinq stratégies pour mettre à mal les bagarres.
Janusz Korczak était un homme plein d'humour et je vais essayer de la faire avec un petit peu d'humour, cette chronique autour des bagarres qui est issue du livre de la pédagogie avec humour. Donc en fait, Mr. G, ou Mr. K, comme on peut l'appeler, ça sera peut-être plus simple pour nous, en fait a essayé d'isoler 5 méthodes pour limiter, encadrer, gérer un petit peu les bagarres. Sa première méthode, c'était la méthode comptable, en fait. La méthode comptable, pour lui, les enfants avaient 10 possibilités et une bagarre, une petite bagarre, c'était un caillou. Ils avaient 10 cailloux et une petite bagarre, c'était un caillou. Une bagarre modérée, c'était 2 cailloux. Une bagarre acharnée, où on se la donnait beaucoup, c'était 3 cailloux. Donc en fait, les enfants devaient faire attention à pas tout dépenser les premiers jours. Certains sûrement pouvaient en garder, les vendre à d'autres. Enfin, ça c'est pas mentionné dans le livre, mais je m'imagine que certains ont dû se dire « Tiens, moi je me bagarre pas, je vais les vendre à mes copains, je vais me faire du chocolat comme ça ». Donc voilà, ça c'était la première méthode comptable. Alors je me dis aussi, les gamins qui étaient pas très bons en maths, ils devaient être en galère par rapport aux bagarres, peut-être à découvert. Bon, ils devaient pouvoir faire des crédits. La deuxième méthode, c'était la méthode du miroir. Ils se retrouvaient un petit peu comme dans le film de la haine, je sais pas si ça dit quelque chose à certains, quand Vince est devant son miroir et qui s'imagine quelqu'un qui le cherche. Et donc dans le livre, il est expliqué de la même manière qu'on doit prendre des airs de méchant, on doit essayer de montrer qu'on va être le plus fort. Mais il dit aussi, regarde-toi après la bagarre et regarde comme tu te sens pas bien, comme tu es cabossé, comme tu peux te sentir honteux. Donc ça, c'était sa deuxième méthode pour faire réfléchir les enfants sur les bagarres. La troisième méthode, la sublimation. La sublimation, c'est le transfert des pulsions réprouvées en valeurs socialement reconnues. Donc transformer la colère en quelque chose de positif. Bon, j'ai remarqué un petit côté misogyne dans ce paragraphe-là, même si, d'après ce que j'ai lu après, c'était pas un homme misogyne du tout. Je vous lis ce petit passage. Ça ne te convient pas, tu ne veux pas te disputer comme une petite fille, mais tu peux le faire comme un garçon. Les filles parlent beaucoup, elles rougissent également. Elles ont aussi le nez qui brille, des yeux grands comme des soucoupes, patati et patata. Bon, aujourd'hui on dirait nanani et nanana ou nanana, mais je me dis, et l'égalité fille-garçon dans ce truc-là, où elle est? Parce qu'en fait, ils parlent souvent que des bagarres des garçons. Moi je me dis que les filles aussi, elles auraient pu se battre et c'était bien normal. Ensuite, ils proposent la méthode de se mordre la langue quand on est en colère. Donc ça c'est difficile et puis ça fait mal, donc moi je le déconseille. Il faudrait pas se faire mal. Après, en plus de ça, c'est un malin quand même, ce Janusz Korczak. Il fait travailler les enfants avec le latin. Vous allez me dire, mais comment il fait? En fait, il propose aux enfants, avant d'asséner le premier coup, prononce cette formule magique en latin. Concordia parvae res crestum discordia maximae dilabuntur. Ce qui veut dire aussi, l'entente construit, la mésentente détruit. C'est un malin quand même, ce mec, pour faire bosser les enfants sur le latin. La dernière méthode, c'est la détermination. C'est la méthode générale, c'est une méthode pour se canaliser, tu serres ta bride et même s'il t'énerve, t'essaies de garder ton calme. Tu as de la volonté, donc tu es fort, tu ne lâches pas. Parce que pour lui, un homme sans volonté, c'est moins qu'un homme, donc c'est important de se canaliser. Et dernière petite chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est le pire dans une bagarre. Je vous lis ce petit passage sur la fin du chapitre. Le pire dans une bagarre, c'est le novice. Il ne sait pas, il ne prévoit pas, il ne connaît pas, et vlan, un coup de poing dans le nez. Certains essaignent énormément, le lutteur expérimenté le sait et l'évite pour avoir la paix. Le novice, lui, se fait avoir, parce qu'avec les adultes, c'est tout de suite « du sang, c'est un voyou !» Alors que ce n'est pas lui le voyou, c'est la spécificité du nez. Voilà, en tout cas, je trouve que réfléchir aux bagarres avec de l'humour, c'était quelque chose de très très intéressant et... Battez-vous, mais battez-vous avec des blagues, alors ce sera peut-être mieux.
Merci beaucoup, Franck, pour cette chronique. Et je sais que lors de la préparation, il y a eu des échanges au sein du groupe qui ont soulevé un petit peu des points éventuellement d'achoppement par rapport à cette question de la bagarre et de la gestion de la bagarre. Notamment, on a parlé de temporalité, à savoir est-ce qu'il fallait réagir à la bagarre dans l'immédiateté ou si on pouvait un petit peu différer les choses, ce qui a priori est un petit peu préconisé dans ce que tu présentais, et ce qui se retrouve aussi dans la boîte à bagarre où on passait d'abord par l'écrit quand on avait envie de se battre, espérant que ça redescende un petit peu ces pulsions là. Et donc il y avait cette question de temporalité, et puis il y avait aussi la question de l'interventionnisme ou de l'intervention de l'adulte par rapport à ça. Et peut-être qu'on peut partir de nos pratiques. De quand on rencontre la bagarre, nous, dans les colos, et est-ce qu'on est dans l'immédiat, est-ce qu'on diffère, est-ce qu'on intervient, à quel moment on intervient? Voilà, la parole est à vous.
On était avec les détenus qui étaient, je sais pas, ils étaient au nombre de 15, ils venaient quand ils voulaient, et en fait, on avait un petit bip avec un bouton d'alarme qu'on pouvait appuyer pour que les gardiens viennent dans notre salle pour nous aider, en gros. Il y avait une confiance entre nous. Et en fait, au cours de l'atelier, ben, ça se détend. Jusqu'au moment où, en fait, il y a eu une bagarre, mais énorme, en fait. Et quelqu'un qui a caché le loquet de la porte pour que le gardien puisse pas voir. Deux hommes qui ont commencé à se taper dessus, et c'est allé très très vite. Il y en a qu'un qui a commencé à prendre un ciseau, les autres l'ont empêché. Enfin, il y avait un truc très très violent en direct. Nous, on s'est pris ça, on était en mode pétrifié, avec le bip dans la main. Et en fait, on savait très bien que si on appuyait, le gardien allait venir et allait emmener des personnes qu'on avait vues pendant une semaine et pour d'autres trois semaines, des personnes qu'on a aimées et tout. Et en fait, on était incapables d'appuyer sur le bip, quoi. C'est pas forcément lié à la colo. J'avais envie de raconter ça parce que j'ai trouvé ça fort à quel point, au final, la bagarre a éclaté. Nous, on n'était pas garants de la sécurité. Les garanties de la sécurité, c'était le bip. On a préféré rien faire, quoi. Et après, bah, on a eu un cas de conscience. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prévient, je sais pas, la sécurité pour dire qu'est-ce qui s'est passé? D'autant plus qu'il y avait un groupe contre une personne. Du coup, on se disait, mais en fait, la personne toute seule, elle va prendre super cher, quoi. On se disait que prévenir les gardiens allait pas forcément aider la personne toute seule. Enfin, c'était très compliqué. Et en fait, il y a eu d'autres bagarres. Et en fait, quand on est arrivé dans notre salle, il y avait plein de gardes et ça avait déjà éclaté sans qu'on ait de choix à faire, en fait. Mais du coup, je trouve que, je sais pas, je voulais raconter cette histoire. Il y a un truc philosophique, je trouve, dans l'action de séparer les gens de protection qu'on peut avoir.
Dans ce qu'il proposait, c'était très codé, les bagarres, en fait. Et ce qui est différent avec l'histoire que tu racontes, où il y a un groupe et une personne, là, il fallait combattre à force égale. Et puis, si il y en a un qui était plus faible, celui qui était plus fort devait taper moins fort. Enfin, voilà, il y avait énormément de règles. C'était un peu comme instaurer un sport de combat à partir des bagarres naturelles.
On a tendance peut-être aussi à analyser la bagarre comme une violence physique, enfin, c'en est une. Mais il peut y avoir aussi d'autres choses qui jouent, qui sont des bagarres ou des joutes verbales dont on n'a pas forcément conscience parce que de loin ça se voit pas. Et là, du coup, l'adulte va pas intervenir sur des humiliations qu'il peut y avoir ou ce genre de choses. Du coup, je trouve aussi que la résolution des bagarres par Korczak, elle répond pas forcément à ce besoin de sécurité émotionnelle ou affective qu'il peut y avoir de la part de certains enfants qui, du coup, vont exploser à des moments parce que tout ce qu'ils ont pu vivre ou supporter jusqu'alors était trop difficile. Et on a tendance peut-être aussi à intervenir sur des bagarres de garçons, alors que des filles qui vont s'humilier, ça va passer à la trappe parce que les filles, ça se bagarre pas, quoi.
Et effectivement, dans sa manière de coder la bagarre, c'est uniquement sur des aspects physiques. C'est-à-dire que, par rapport à ce que tu disais aussi, Simon, sur le fait de vouloir protéger, il y avait des codes comme ne pas casser les doigts, ne pas tordre le cou. Il y avait beaucoup de règles, en fait, à intégrer pour pouvoir finalement se bagarrer.
Je trouve qu'il y a un truc aussi qui rejoint un peu l'honnêteté de Korczak, où c'est de pas étouffer la violence, en fait, et de pas se cacher du fait que la violence existe, de l'encadrer, quoi. Il faut faire avec, quoi. Il faut essayer de trouver des solutions pour que effectivement cette violence elle puisse s'exprimer de la meilleure manière possible, quoi.
Est-ce que c'est toujours des bagarres ou est-ce que c'est parfois juste un besoin de défoulement physique, et est-ce que du coup répondre par « t'as un bon de bagarre pour dans 3 jours », ça répond vraiment aux besoins de l'enfant à ce moment-là, qui était peut-être juste de courir ou de se taper un 50 mètres ou ce genre de choses-là, en fait. Donc peut-être qu'on peut répondre à ces besoins de bagarre de façon instantanée, sans avoir besoin d'une institution, en se disant « on va faire un jeu collectif ou un cache-cache ou des choses où on va s'attraper ». Et parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de conflit, il y a juste un besoin de bouger de la part de l'enfant.
Dans le cadre où il écrit, où il vit dans son orphelinat et tout, il y a tellement de violences aussi, que ce soit les violences du nazisme, la violence de l'antisémitisme qu'il vit qu'on voit par exemple dans le film, dans la rue, la violence des soldats. J'ai l'impression que peut-être ce serait hypocrite, en fait, de vouloir à tout prix empêcher une violence qui est en fait partout dans le monde, et peut-être encore aujourd'hui. Si un enfant se bat, c'est peut-être parce que il y a de la violence autour aussi.
On arrive au terme de ce labo bagarre. On va bientôt aller sur le champ des valeurs, n'est-ce pas, Stéphanie?
Alors, dans les différents débats qui ont été initiés durant ce séminaire, la question de la difficulté et de la difficile confrontation entre nos valeurs de DACM et la réalité des publics avec qui on souhaite construire les séjours s'est souvent posée. Cette question est parue comme une problématique récurrente et qui soulève de nombreux paradoxes, ainsi que la difficile question du pouvoir.
Korczak se pose la question et essaye d'y répondre à comment les enfants élaborent-ils le système de valeurs. Et à travers le texte que je vais vous lire, tente d'y répondre. C'est une opinion très répandue que les adultes peuvent et doivent transmettre un certain système de valeurs aux enfants, un modèle fini, obligatoire et attesté par diverses autorités. Dans ce domaine fondamental, la conception de Korczak est tout autre. Son credo pédagogique est certainement le plus clair dans le texte, le départ, qu'il dédiait aux jeunes qu'il quittait, la maison d'orphelins. « Nous ne vous donnons rien. Nous ne vous donnons aucun Dieu, car il faudra le chercher vous-même, dans votre âme, à vous, dans vos efforts. Nous ne vous donnons aucune patrie, car il faudra la trouver dans votre propre travail, dans votre cœur, dans vos pensées. Nous ne vous donnons aucun amour du prochain, car il n'existe aucun amour sans pardon. Pardonner, c'est l'épreuve la plus complexe, difficile, que chacun doit endurer seul. Mais nous vous donnons ceci, le désir d'une vie meilleure qui n'existe pas, mais encore qui n'existera un jour. Le désir d'une vie emplie de droits et de justice. Ce désir guidera peut-être encore, mais existera un pas vers Dieu, vers la patrie et l'amour. Ce bref extrait contient pratiquement toute la conception pédagogique, tout le programme éducatif. Un système de valeurs ne peut pas être transmis ni imposé aux enfants. Une valeur ne prend sens et ne dirige une vie d'homme que quand elle mûrit pas à pas et se développe sans trêve en lui. Chacun doit accéder à une valeur donnée dans la souffrance, la peine, l'effort, en corrigeant sans cesse ses manières de penser et d'agir. Un humain ne devient une personne qu'il fait des siens, ses efforts, ses obstacles, ses souffrances même. Autrement, il devient un être manipulé, une marionnette soumise, sans réaction aux stéréotypes et aux clichés.